Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc à nouveau ensemble ce soir dans nos lectures en liberté pour la suite des aventures de Zazie dans le roman de Raymond Queneau, Zazie dans le métro. Ça viendra un jour, dit le type, avec le progrès, il y aura le métro partout. Ce sera le même ultra chouette. Le métro et l'hélicoptère, voilà l'avenir pour ce qui est des transports urbains. On prend le métro pour aller à Marseille et on revient par hélicoptère. Mais pourquoi pas le contraire ? Demanda la veuve Mouaque, dont la passion naissante n'avait pas encore entièrement obnubilé le cartésianisme natif. « Pourquoi pas le contraire ? » dit le type anaphoriquement, « à cause de la vitesse du vent. » Il se tourne un peu vers l'arrière pour apprécier les effets de cette astuce majeure, ce qui l'entraîne à rentrer de l'avant dans un car stationné en deuxième position. On était arrivé. En effet, Fédor Balanovitch fit son apparition et se mit à débiter le discours type. « Alors quoi, on ne sait plus conduire ? Ah ben ça m'étonne pas, un provincial. Ben, au lieu de venir encombrer les rues de Paris, vous feriez mieux d'aller garder vos oies et vos veaux. »«
Tiens, s'écria Zazie, mais c'est Fédor Balanovitch. Vous avez pas vu mon tonton ?»«
Su son tonton, » dit la veuve Mouaque en s'extrayant de la carlingue. « Ah mais c'est pas tout ça, » dit Fédor Balanovitch. « Faudrait voir, avoir, regardez ça, vous m'avez abîmé mon instrument de travail. »«
Vous étiez arrêté en deuxième position, » dit le sanctimontronais. « Ça se fait pas. »«
Ben commencez pas à discuter, » dit Trouscaillon en descendant à son tour. « Je vais arranger ça. »«
Ben c'est pas de jeu, » dit Fédor Balanovitch. « Vous étiez dans la voiture, vous allez être partial. »«
Eh bien, démerdez-vous, » dit Trouscaillon, qui se tira anxieux de retrouver la veuve Mouaque, laquelle avait disparu dans le sillage de la mouflette.
À la terrasse du café des Deux Palais, Gabriel, vidant sa cinquième grenadine, pérorait devant une assemblée dont l'attention semblait d'autant plus grande que la francophonie y était plus dispersée. Pourquoi, qu'il disait, pourquoi qu'on supporterait pas la vie du moment qu'il suffit d'un rien pour vous en priver. Un rien l'amène, un rien l'anime, un rien l'amine, un rien l'emmène. Sans ça, qui supporterait les coups du sort et les humiliations d'une belle carrière, les fraudes des épiciers, les tarifs des bouchers, l'eau des laitiers, l'énervement des parents, la fureur des professeurs, les gueulements des adjudants, la turpitude des nantis, les gémissements des anéantis, le silence des espaces infinis, l'odeur des choux-fleurs ou la passivité des chevaux de bois, si l'on ne savait que la mauvaise et proliférante conduite de quelques cellules infimes ou la trajectoire d'une balle tracée par un anonyme, involontaire, irresponsable, ne viendrait inopinément faire évaporer tous ses soucis dans le bleu du ciel. Moi qui vous cause, j'ai bien souvent gambergé à ces problèmes. Tandis que vêtu d'un tutu, je montre à des caves de votre espèce mes cuisses naturellement assez poilues, il faut le dire, mais professionnellement épilées. Je dois ajouter que si vous en exprimez le désir, vous pouvez assister à ce spectacle dès ce soir.
Hurrah ! S'écrièrent les voyageurs de confiance. Mais dis-moi, tonton, tu fais de plus en plus recettes.
Ah ! Te voilà, toi, dit Gabriel, tranquillement.
Eh bien, tu vois, je suis toujours en vie, et même en pleine prospérité.
Tu leur as montré la Sainte-Chapelle ?
Bah, ils ont eu du pot, c'était en train de fermer. On a juste eu le temps de faire un 100 mètres devant les vitraux. Comme ça, d'ailleurs, les vitraux, ils sont enchantés, eux. Pas vrai, my Gretchen lady ?
La touriste élue acquiesça ravi. « Hurrah !» crièrent les autres. « Sus au guide de nappeur !» ajouta la veuve Mouac, suivie de près par Trouscaillon.
Le flicman s'approcha de Gabriel et, s'inclinant respectueusement devant lui, s'informa de l'état de sa santé. Gabriel répondit succinctement qu'elle était bonne. L'autre alors poursuivit son interrogatoire en abordant le problème de la liberté. Gabriel assura son interlocuteur de l'étendue de la sienne que de plus il jugeait à sa convenance. Certes, il ne niait pas qu'il y ait eu tout d'abord une atteinte non contestable à ses droits les plus imprescriptibles à cet égard, mais finalement, s'étant adapté à la situation, il l'avait transformée à tel point que ses ravisseurs étaient devenus ses esclaves et qu'il disposerait bientôt de leur libre arbitre à sa guise. Il ajouta pour conclure qu'il détestait que la police fourrât son nez dans ses affaires, et comme l'horreur que lui inspiraient de tels agissements n'était pas loin de lui donner la nausée, il sortit de sa poche un carré de soie de la couleur du lilas. Celui qui n'est pas blanc, mais imprégné de barbouze, le parfum de fjord, et s'en tamponna le tarin. Trouscaillon, empesté, s'excusa, salua Gabriel en se mettant au garde-à-vous, exécuta le demi-tour réglementaire, s'éloigna, disparut dans la foule, accompagné par la veuve Mouac qui le pourchasse au petit trot.
« Comment que tu l'as mouché ?» dit Zazie à Gabriel en se faisant une place à côté de lui. « Pour moi, ce sera une glace fraise chocolat. »«
Il me semble que j'ai déjà vu sa tête quelque part, » dit Gabriel.
« Maintenant que voilà la flicaille vidée, » dit Zazie, « tu vas peut-être me répondre. Es-tu homosexuel ou pas ?»«
Je te jure que non. » Et Gabriel étendit le bras en crachant par terre, ce qui choqua quelque peu les voyageurs. Il allait leur expliquer ce trait du folklore gaulois quand Zazie, le prévenant dans ses intentions didactiques, lui demanda pourquoi, dans ce cas-là, le type l'avait accusé d'en être un.
« Ah, oh, ça recommence !» gémit Gabriel.
Les voyageurs, comprenant vaguement, commençaient à trouver que ça n'était plus drôle du tout et se consultèrent à voix basse et dans leur idiome natif. Les uns étaient d'avis de jeter la fillette à la Seine, les autres de l'emballer dans un plaid et de la mettre en consigne dans une gare quelconque après l'avoir gavée de watts pour l'insonoriser. Si personne ne voulait sacrifier de couverture, une valise pourrait convenir, en tassant bien. Inquiet de ces conciliabules, Gabriel se décide à faire quelques concessions.
« Eh bien, dit-il, je t'expliquerai tout ce soir, mieux même tu verras de tes propres yeux. »«
Je verrai quoi ?»« Tu verras, c'est promis. » Zazie haussa les épaules.
« Oh, les promesses, moi !» Tu veux que je crache encore un coup par terre? Bah ça suffit, tu vas postillonner dans ma glace. Alors maintenant, fous-moi la paix, tu verras, c'est promis.
Bah qu'est-ce qu'elle verra, cette petite? Demanda Fédor Balanovitch, qui avait fini par régler son tamponnement avec le sanctimontronais, lequel d'ailleurs avait manifesté une forte envie de disparaître du coin.
Il s'installe à son tour près de Gabriel, et les voyageurs lui firent respectueusement place.
« Je l'emmène ce soir au Mont-de-Piété, » répondit Gabriel, « et les autres aussi. »«
Minute !» dit Fédor Balanovitch. « Ça fait pas partie du programme. Moi, faut que je les couche de bonne heure, car ils doivent partir demain matin pour Gibraltar, aux anciens parapets. Tel est leur itinéraire. »
En tout cas, dit Gabriel, ça leur plaît.
« Ils ne se rendent pas compte de ce qui les attend, » dit Fédor Balanovitch.
« Ce sera un souvenir pour eux, » dit Gabriel. « Pour moi aussi, » dit Zazie, qui poursuivait méthodiquement des expériences sur les saveurs comparées de la fraise et du chocolat.
« Oui, mais, » dit Fédor Balanovitch, « qu'est-ce qui paiera au Mont-de-Piété ? Ils ne marcheront pas pour un supplément.
Ben, »« Je les ai bien en main, » dit Gabriel.
« À propos, lui dit Zazie, je crois que c'est en train de me revenir la question que je voulais te poser. »«
Eh bien, tu repasseras, » dit Fédor Balanovitch. « Laisse causer les hommes. »
Impressionné, Zazie la boucla.
Comme un loufia passait d'aventure, Fédor Balanovitch lui dit « Pour moi, ce sera un jus de bière. »«
Dans une tasse ou en boîte ?» demanda le garçon.
« Dans un cercueil, » répondit Fédor Balanovitch, qui fit signe au loufia qu'il pouvait disposer.
« Celle-là, elle est suprême, » se risqua dire Zazie. « Même le général Vermot aurait pas trouvé ça tout seul. »
Fédor Balanovitch ne porte aucune attention aux propos de la mouflette.
« Alors comme ça, » qu'il demande à Gabriel, « tu crois qu'on pourrait leur imposer une surcharge ?»«
Puisque je te dis que je les ai en main, faut en profiter. Tiens, par exemple, où tu les emmènes dîner ?»«
Ah, c'est qu'on les soigne. Ils ont droit au buisson d'argent. Mais c'est payé directement par l'agence.
Regarde. » Moi, je connais une brasserie boulevard Turbigo où ça coûtera infiniment moins cher. Toi, tu vas voir le patron de ton resto de luxe et tu te fais rembourser quelque chose sur ce qu'il touchera de l'agence. C'est tout profit pour tout le monde. Et par-dessus le marché, là où je te les emmènerai, qu'est-ce qu'ils se régaleront pas ? Naturellement, on payera avec le supplément qu'on va leur demander pour le monde piété. Quant à la ristourne de l'autre resto, on se la partage.
Ben, « vous êtes des petits rusés tous les deux, » dit Zazie.
« Ça alors, » dit Gabriel, « c'est de la pure méchanceté. Moi, tout ce que je fais, c'est pour leur plaisir. »«
On pense qu'à ça, » dit Fédor Balanovitch, « qu'à ce qu'ils s'en aillent avec un souvenir inoubliable de Sturbe Inclite qu'on vocite par Wart,
afin qu'ils reviennent. »
« Eh bien, tout est pour le mieux, » dit Gabriel. « En attendant le dîner, ils expérimenteront le sous-sol de la brasserie. 15 billards, 20 pimpons, uniques à Paris.
Ben, »« ce sera un souvenir pour eux, » dit Fédor Balanovitch.
« Pour moi aussi, » dit Zazie, « car pendant ce temps, j'irai me promener. »«
Pas sur le Sébasto, surtout, » dit Gabriel affolé.
« T'en fais pas, » dit Fédor Balanovitch. « Elle doit avoir de la défense. »
N'empêche que sa mère me l'a pas confié pour qu'elle traîne entre les Halles et le château d'eau.
Je ferai juste les 100 pas devant ta brasserie, dit Zazie conciliante.
Raison de plus pour qu'on croie que tu fais le tapin, s'exclama Gabriel épouvanté, surtout avec tes blue jeans. Il y en a des amateurs.
Il y a des amateurs de tout, dit Fédor Balanovitch, en homme qui connaît la vie.
Ben, « c'est pas gentil pour moi, ça, » dit Zazie en se tortillant.
« Si maintenant elle se met à faire du charme, » dit Gabriel, « on aura tout vu.
Pourquoi ?» demanda Zazie.
« C'est un normo. »«
Tu veux dire un normal ?» rectifia Fédor Balanovitch. « Suprême, celle-là, n'est-ce pas, tonton ?»
Et il tapa sur la cuisse de Gabriel qui se trémoussa.
Les voyageurs les regardaient avec curiosité.
Un arbre sur une branche, un oiseau criant dimanche, l'herbe rase par ici. Des godasses pas étanches, très peu d'atouts dans la manche. Une sauce à l'oignon frit. Un phoneau sur une planche, un accordéon qui flanche. Des chats, des rats, des souris. Un vélo coupé en tranches, un coup dur qui se déclenche. Des voyous, des malappris. Un vague, vive la franche, par un auvergnat d'Avranche. Les kabyles, les sidis. la putain qui se déhanche. Un passant séduit se penche, c'est 100 sous pour le chéri. Des cheveux en avalanche, des yeux non, c'est des pervenches. Belle fille de Paris, ma tristesse qui s'épanche, la fleur bleue ou bien la blanche, et mon cœur qu'en a tant pris, et mon cœur qu'en a tant pris, à Saint-Ouen, près de Paris.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Après cette nouvelle pause en chansons, des chansons dont les textes cette semaine sont tous écrits par Raymond Queneau, nous revenons donc au roman de Raymond Queneau, Zazie dans le métro. La brasserie au rez-de-chaussée lui parut convenir à cette entreprise et il s'affala sur une banquette avant d'avoir vu la veuve Mouaque et Trouscaillon à une table vise à vise. Ils lui firent des signes guillerets, et Gabriel eut du mal à reconnaître le flicman dans l'endimanché qui prenait des mines à côté de la rombière. N'écoutant que les intermittences de son cœur bon, Gabriel les convia du geste à se joindre à sa smala, ce dont ils ne se firent pas faute. Les étrangers s'étranglaient d'enthousiasme devant tant de couleurs locales, cependant que des garçons vêtus d'un pagne commençaient à servir, accompagnés de demi de bière enrhumée, une choucroute poicre parsemée de saucisses paneuses, de lard chancy, de jambon tanné et de patates germées, apportant ainsi à l'appréciation inconsidérée de palais bien disposés la fine efflorescence de la cuisine françoise.
Zazie, goûtant au mets, déclara tout net que c'était de la merde. Le flicard, élevé par sa mère concierge dans une solide tradition de bœuf mironton, la rambière quant à elle experte en frites authentiques, Gabriel lui-même, bien qu'habitué aux nourritures étranges qu'on sert dans les cabarets, s'empressèrent de suggérer à l'enfant ce silence lâche qui permet aux gargotiers de corrompre le goût public sur le plan de la politique intérieure et sur le plan de la politique extérieure de dénaturer à l'usage des étrangers l'héritage magnifique que les cuisines de France ont reçu des Gaulois à qui l'on doit en outre, comme chacun sait, les brais, la tonnellerie et l'art non figuratif.
« Vous m'empêcherez tout de même pas de dire, dit Zazie, que c'est dégueulasse. »«
Bien sûr, dit Gabriel, je ne veux pas te forcer, je suis compréhensif, moi. Pas vrai, madame ?»«
Des fois, dit la veuve Mouaque, des fois. »«
C'est pas tellement ça, dit Trouscaillon, c'est à cause de la politesse. »«
Politesse mon cul, dit Zazie. »
Vous, dit Gabriel au flingman, je vous prie de me laisser élever cette môme comme je l'entends. C'est moi qui en ai la responsabilité, pas vrai, Zazie ?
Pareil, dit Zazie. En tout cas, moi, rien à faire pour que je bouffe cette saloperie.
Mademoiselle Désir s'enquit hypocritement un loufia vicieux qui flairait la bagarre.
Je veux autre chose, dit Zazie.
Notre choucroute alsacienne ne plaît pas à la petite demoiselle, demanda le vicieux loufia.
Il voulait faire de l'ironie, ce con.
Non, dit Gabriel avec force et autorité, ça lui plaît pas.
Le loufia considéra pendant quelques instants le format de Gabriel, puis, en la personne de Trouscaillon, subodora le flic. Tant d'atouts réunis dans la seule main d'une fillette l'incitèrent à boucler sa grande gueule. Il allait donc faire une démonstration de plat ventre lorsqu'un gérant, plus con encore, s'avisa d'intervindre. Il fit aussitôt son numéro de charme.
De quoi qu'il pépia des étrangers qui se permettent de causer cuisine ? Ben merde alors, ils sont culottés les touristes cette année. ils vont peut-être se mettre à prétendre qu'ils s'y connaissent en bectance, les enfoirés. »
Il interpella quelques-uns d'entre eux.
« Non, mais dites donc, vous croyez comme ça qu'on a fait plusieurs guerres victorieuses pour que vous veniez cracher sur nos bombes glacées ? Vous croyez qu'on cultive à la sueur de nos fronts le gros rouge et l'alcool à brûler pour que vous veniez le déblatérer au profit de vos saloperies de Coca-Cola ou de Chianti, tas de feignants ? Tandis que vous pratiquiez encore le cannibalisme en suçant la moelle des os de vos ennemis charcutés, nos ancêtres les croisés préparaient déjà le beefsteak pomme frite avant même que Parmentier ait découvert la pomme de terre, sans parler du boudin haricot vert que vous avez jamais été foutu de fabriquer, ça vous plaît pas ? Non ? Comme si vous vous y connaissiez en quelque chose. »
Il reprit sa respiration pour continuer en ces termes polis.
C'est peut-être le prix qui vous fait faire cette gueule-là. Ils sont pourtant ben honnêtes, non prix. Vous vous rendez pas compte, tas de radins ? Avec quoi qu'il ne paierait pas ses impôts, le patron, s'il ne tenait pas compte de tous vos dollars que vous savez pas quoi en faire ?
T'as fini de déconner ? Demanda Gabriel.
Le gérant pousse un cri de rage. Et ça prétend causer le français qu'il se met à hurler.
Il se tourna vers le vicieux Loufia et lui communiqua ses impressions.
« Non mais t'entends cette grossière merde qui se permet de m'adresser la parole en notre dialecte, mais si c'est pas écœurant ?»«
Bah il cause pas mal pourtant, » dit le vicieux Loufia, qui avait peur de recevoir des coups.
« Traître !» dit le gérant, exacerbé, hagard et trémulant.
« Bah qu'est-ce que t'attends pour lui casser la gueule ?» demanda Zazie à Gabriel.
« Chut !» fit Gabriel. Tordez-y donc les parties viriles, dit la veuve Mouaque, ça lui apprendra à vivre.
Je veux pas voir ça, dit Trouscaillon qui verdit. Pendant que vous opérerez, je m'absenterai le temps qu'il faut. J'ai justement un coup de bigophone à passer à la préfectance.
Le vicieux Loufia, d'un coup de coude dans le bide du gérant, souligna le propos du client. Le vent tourna.
Ceci dit, commença le gérant, ceci dit que désire mademoiselle.
Le truc que vous me servez là, dit Zazie, c'est tout simplement de la merde.
Ben, y a eu erreur, dit le gérant, avec un bon sourire. Y a eu erreur. C'était pour la table d'à côté, pour les voyageurs.
Ils sont avec nous, dit Gabriel.
Vous inquiétez pas, dit le gérant d'un air complice. Je trouverai bien à la replacer, ma choucroute. Qu'est-ce que vous désirez à la place, mademoiselle ?
Une autre choucroute.
Une autre choucroute ?
Oui, dit Zazie, une autre choucroute.
C'est que, dit le gérant, l'autre sera pas meilleure que celle-là. Je vous dis ça tout de suite pour que ça recommence pas vos réclamations.
Somme toute, il n'y a que la chose à manger dans votre établissement.
« Pour vous servir, dit le gérant, ah, si j'avais pas les impôts.
Ah, ah. Miam, miam, dit un voyageur en dégustant le fin fond de son assiette de choucroute.
D'un geste, il signifia qu'il en revoulait.
« Là, dit le gérant, triomphalement,
et l'assiette de Zazie, que le vieux Loufia venait juste d'enlever, réapparut en face du boulimique.
« Comme je vois que vous êtes des connaisseurs, continua le gérant, je vous conseille de prendre une cornette de bif nature et j'ouvrirai la boîte devant vous.
Bah, »« Il a mis du temps pour comprendre, » dit Zazie.
Humilié, l'autre s'éloignait. Gabriel, bonne âme, pour le consoler, lui demanda
« Et votre grenadine, elle est bonne, votre grenadine ?»«
Mado, petit pied ?» regarda le téléphone sonner pendant 3 secondes. Puis, à la quatrième, entreprit d'écouter ce qui se passait à l'autre bout. Ayant descendu l'instrument de son perchoir, elle l'entendit aussitôt emprunter la voix de Gabriel qui lui déclarait qu'il avait 2 mots à dire à sa ménagère.
« Et fonce !» qu'il ajouta.
« Je peux pas, » dit Mado Petit Pied. « Je suis toute seule. Monsieur Turandot n'est pas là. »
« Tu causes, » dit la verdure, « tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. »
« Et conne, » dit la voix de Gabriel, « s'il y a personne, tu boucles la lourde, et s'il y a quelqu'un, tu le fous dehors, t'as compris, fleur de nave ?»«
Oui, monsieur Gabriel. »
Elle raccrocha. C'était pas si simple. Il y avait en effet un client. Elle aurait pu le laisser tout seul d'ailleurs, puisque c'était Charles. Et que Charles, c'était pas le type à aller fouiner dans le tiroir caisse pour y saisir quelques monnaies. Un type honnête, Charles. La preuve, c'est qu'il venait de lui proposer le conjugo. Mado Petitpied avait à peine commencé à réfléchir à ce problème que le téléphone se remettait à sonner. « Merde, rugit Charles, il n'y a pas moyen d'être tranquille dans ce bordel. »«
tu causes, dit la Verdure, que la situation énervait, c'est tout ce que tu sais faire. »
Mado Petitpied reprit l'écouteur en main et s'entendit propulser un certain nombre d'adjectifs, tous plus désagréables les uns que les autres. « Raccroche donc pas, sorcière, tu saurais pas où me rappeler, et fonce donc, t'es toute seule ou y a quelqu'un ?»«
Y a Charles. »
« Qu'est-ce qu'on lui veut à Charles ?» dit Charles noblement. « tu causes, c'est tout, dit la Verdure, ce que tu sais faire. »«
C'est lui qui gueule comme ça ?» demanda le téléphone.
« Non, c'est la Verdure. Charles, lui, il me parle Marida. »«
Ah, il se décide, » dit le téléphone avec indifférence.
« Ça l'empêche pas d'aller chercher Marceline. Si toi tu veux pas t'appuyer sur les escaliers, il fera bien ça pour toi, Charles. »«
Je vais lui demander. » dit Mado Petitpied.
Il dit qu'il veut pas.
Pourquoi ?
Il est fâché contre vous.
Le con !
Dis-y qu'il s'amène au bout du fil.
Charles ! Cria Mado Petitpied.
Charles ne dit rien. Mado s'impatiente.
Alors ça vient ? Demande le téléphone.
Oui, dit Mado Petitpied.
Finalement, Charles, ayant éclusé son verre, s'approche lentement de l'écouteur. Puis, arrachant l'appareil des mains de sa peut-être future, il profère ces mots cybernétiques.
« Allô ? » ?»« C'est toi, Charles ?»«
Ouais. » »«
Alors fonce et va chercher Marceline, que je lui cause. C'est urgent. »«
J'ai d'ordre à recevoir deux personnes. »«
Oh là là, s'agit pas de ça, grouille que je te dis, c'est urgent. »«
Et moi, je te dis que j'ai d'ordre à recevoir deux personnes. » Et il raccroche.
Puis il revint vers le comptoir derrière lequel Mado Petitpied semblait rêver.
« Alors, dit Charles, qu'est-ce que t'en penses ? C'est oui, c'est non. »
« Je vous répète, susurra Mado Petitpied, vous me dites ça comme ça, sans prévenir, c'est un choc. Je prévoyais pas, ça demande réflexion, monsieur Charles. »«
Comme si t'avais pas déjà réfléchi. »«
Oh, monsieur Charles, comme vous êtes squelettique. »
La sonnerie du truc-chose se mit de nouveau à téléfonctionner.
Non, mais qu'est-ce qu'il a ? Mais qu'est-ce qu'il a ?
Laissez-le donc tomber, dit Charles.
Faut pas être si dur que ça, c'est quand même un copain.
Oui, mais la gosse en supplément, ça s'arrange rien.
Il pensait pas à la gamine, à cet âge-là, c'est du flan.
Comme ça continuait à ronfler, de nouveau, Charles se mit au bout du fil de l'appareil décroché.
Allô ? Hurla Gabriel.
Ouin, dit Charles.
« Allez, fais pas le con, va, fonce chez Marceline et tu commences à m'emmerder à la fin. »«
Tu comprends ?» dit Charles d'un ton supérieur, « tu me déranges. »«
Non, mais, brama le téléphone, qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Te déranger, toi ? Mais qu'est-ce que tu pourrais branler d'important ?»
Charles posa énergiquement sa main sur le phonateur de l'appareil et se tournant vers Mado, lui demanda
« C'est-y oui, c'est-y non ?»
« Oui,
répondit Mado Petitpied en rougissant.
« Ben vrai !»
Charles débloqua le phonateur et communiqua la chose suivante à Gabriel, toujours présent à l'autre bout.
« Ben voilà, j'ai une nouvelle à t'annoncer.
M'en fous, va me chercher
Marceline, je sais. »
Puis il fonce à toute vitesse.
« Mado Petitpied et moi, on vient de se fiancer. Bonne idée, au fond, j'ai réfléchi, c'est pas la peine. » T'as compris ce que je t'ai dit ? Mado Petitpied et moi, c'est le Marida.
Bah si ça te chante, oui, Marceline, pas la peine qu'elle se dérange. Dis-y seulement que j'emmène la petite au Mont-de-Piété pour voir le spectacle.
Nous avons terminé pour ce soir les aventures de Zazie que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5. Bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.